C'est aujourd'hui le 27 novembre et c'est on peut célébrer aujourd'hui l'anniversaire du décès d'un des plus grands hommes, je crois, moi, à mon avis, du 19e siècle. C'est le cardinal Lavigerie qui a fondé les Pères Blancs, les Sœurs Blanches, qu'on appelle les missionnaires d'Afrique, hein, et qui sont des hommes et des femmes qui sont partis en grand nombre ici du Québec pour l'Afrique, et qui ont construit l'Église d'Afrique avec l'aide d'autres congrégations, cela va sans dire. Et aujourd'hui, l'Église africaine, l'Église noire, est vraiment l'une des églises les plus remarquables du monde. On sait qu'actuellement, il y a des cardinaux à la peau noire, admirables, admirables de culture et de formation et de fidélité à l'Église. Sans compter tous les saints et les martyrs que cette Église a donnés au monde, des exemples de foi tant de la part des jeunes martyrs de l'Ouganda qui ont tant affligé le cardinal Lavigerie lorsque c'est survenu peu de temps avant sa mort, que d'autres morts aussi, d'autres missionnaires, des missionnaires qui sont venus d'Europe ou d'ici et qui ont souffert à divers degrés ou qui mouraient très jeunes à cause des maladies, qui se sont donnés corps et âme. C'est admirable que l'épopée des Pères Blancs et des Sœurs Blanches. Admirable. J'aurais aussi voulu vous parler aujourd'hui, c'est un anniversaire, n'est-ce pas, le 27 novembre, de l'apparition de la Vierge. Oui, une apparition encore une autre, mais c'est une très renommée, celle-là. L'apparition à Catherine Labouré, rue du Bac à Paris, où la Vierge lui a révélé, en 1830, cette chose étrange que l'on appelle la médaille miraculeuse. Oh, on peut passer par-dessus, dira-t-on. C'est sans importance, une médaille. Mais c'est tout de même étonnant, cette médaille. Vous savez qu'elle a été répandue en quelques années à plus de 100 millions d'exemplaires. Et elle est répandue maintenant à des milliards d'exemplaires dans le monde. Je dis bien des milliards. C'est quelque chose d'absolument phénoménal qui rappelle aux âmes qui ont la foi de mettre leur confiance en Marie. C'est écrit sur cette médaille d'ailleurs, « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Conçue sans péché, c'est ça l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle est conçue sans qu'il y ait trace de péché dans les gènes, si on peut dire. Elle a été dépourvue de tout ce qui aurait pu l'accabler, des poids qui serait survenu à la suite de cette conception, poids que nous portons tous et qui nous viennent de nos parents, de nos ancêtres, poids du péché, qui ont marqué nos gènes. Nous sommes redevables de certains défauts, d'impatience, de difficultés d'équilibre, mais elle n'a rien reçu de tout ça. Elle a été préservée, si on peut dire, du poids du péché dès sa conception. Et cette médaille nous rappelle admirablement bien l'amour qu'elle a eu pour nous, ainsi que l'amour de Jésus par deux cœurs qui sont inscrits derrière et transpercés, ainsi qu'un grand M qui porte la croix de Jésus, entouré d'étoiles qui symbolisent l'Église et les 12 apôtres. C'est un très beau symbole, c'est comme une petite icône, si on veut, que l'on porte au cou. Ça n'a pas plus d'importance que ça, il ne faut pas y attacher comme à un fétiche des grâces qui viendraient comme par magie. Non, ça vient de la foi, de l'union à Dieu, de l'amour que l'on porte à Marie. Hein. Dans l'Église, il faut faire attention au fétichisme et à toutes ces choses-là. Ça a été aussi la fête, il y a quelques jours, c'est-à-dire le 25 avant-hier, du bienheureux Niels Stinson, dont je vous parlerai l'an prochain. J'ai lu sa vie l'an dernier, au mois de septembre de l'an dernier. C'est une vie qui est parue aux éditions du Cerf en 1988. Le bienheureux Niels Stinson, S-T-2-E-N-S-E-N. C'est écrit par des Danois. C'est un saint danois. Or, les Danois À ce temps-là, étaient uniformément luthériens. Ils avaient tous quitté l'Église catholique. Et celui-ci, bien, est devenu catholique. Et c'est au XVIIIe siècle. C'est absolument extraordinaire. C'est phénoménal. C'est un homme très, très courageux et qui a été très bien reçu, d'ailleurs, dans son milieu par les Danois eux-mêmes, car il était un très, très grand savant. Et je serai heureux de vous en parler l'an prochain. C'est une vie merveilleuse. Enfin, c'est aussi la fête aujourd'hui de Saint-Maxime, et j'en profite pour saluer tous les Maximes. C'est un évêque de Riez qui est mort en 460 et qui a été moine à Lérins, c'est-à-dire sur cette belle île, une très belle île dans la Méditerranée, face à la Côte d'Azur. C'est un monastère à visiter qui existe toujours, le monastère de Lérins. Monastère qui est là, oui, depuis le 5e siècle et même, je crois, le 4e siècle. Alors, nous passons au cardinal Lavigerie, un pionnier de la rencontre avec le monde musulman. Je m'inspire surtout de divers textes du père Michel Fortin, père blanc, missionnaire d'Afrique. Je me souviens dans mon enfance, vers 1931-32, d'un père blanc qui venait visiter ses sœurs, les demoiselles Gauthier, sur l'avenue d'Avar à Outremont, le père Gauthier, missionnaire, père blanc d'Afrique, avec ce costume qui m'impressionnait. Il portait à l'époque un fez rouge, c'est-à-dire cette espèce de chapeau en forme de gâteau presque, avec un gland noir qui pendait, n'est-ce pas, du centre en haut, comme portent les certains musulmans. Et alors, ça m'impressionnait beaucoup, ça me donnait le goût de faire un père blanc. Et c'est donc en plein cœur de l'islam que l'abbé Lavigerie a fondé cette congrégation admirable il y a plus de 100 ans. C'est le costume blanc d'alors, avec gandoura et burnous, avec le chapelet noir et blanc autour du cou, avait été choisi par le cardinal Lavigerie comme un signe d'insertion dans le milieu arabe et musulman de l'Algérie. Et même si Lavigerie était fortement marqué par certaines idées plutôt négatives de son temps, et même d'aujourd'hui, face à l'islam, c'est quand même lui qui, en précurseur absolument remarquable, qui a su poser, on peut dire, les jalons prophétiques qui donnent aujourd'hui ce qui est bien nécessaire pour un saint dialogue avec l'islam. On peut assister d'ailleurs à des soirées remarquables. Il y en aura une ce soir au Centre Africa des Pères Blancs sur la question de l'islam au Soudan et des chrétiens au Soudan. Ce soir à 7h30 au Centre Africa. C'est, je crois, au 1640 de la rue Saint-Hubert. C'est tout près du métro Berry de Montigny. C'est dans un sous-sol. On voit Centre Africa du côté ouest de la rue Saint-Hubert, juste au nord de la rue Sainte-Catherine, quoi. Et c'est là qu'habitent beaucoup de pères blancs. Et il y a ce soir une réunion avec des musulmans pour mieux comprendre l'islam et mieux comprendre ce qui se passe aussi au Soudan, où les chrétiens sont franchement persécutés. Notre cardinal Lavigerie était, à mon avis, un saint. Mais c'est un saint qui n'en avait pas l'air. On croit même qu'il ne l'était pas, sous prétexte qu'il se fâchait au besoin. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à se fâcher de temps en temps? Le Christ ne s'est-il pas fâché aussi? En somme, les Pères Blancs sont fiers de cet homme, qui affirmait que rien de ce qui est humain ne lui était étranger. Ils sont fiers aussi de cet homme, qui avait pour devise l'amour. Un seul mot, caritas, c'est ça qui centrait sa vie. La charité, l'amour. Mais un vrai, un amour profond. Et ils sont fiers aussi de cet homme qui fut l'un des fondateurs de l'Église africaine moderne, un précurseur dans le champ de quoi? De ce qu'on appelle l'inculturation, c'est-à-dire qu'il a voulu se faire membre des communautés dans lesquelles il appelait les membres de sa congrégation à vivre. Il fallait qu'ils vivent comme les gens là-bas. Manger la même chose, dormir de la même façon pour ainsi dire, vivre comme eux, parler la même langue, aimer les mêmes choses. En somme, il a été aussi un apôtre de l'unité qu'il a tant cherché à Jérusalem. Un apôtre de l'unité, respect des catholiques de rite oriental, ne pas chercher à les faire des catholiques latins, mais les respecter dans leur tradition et leur amour de tout ce qui est byzantin, c'est-à-dire de tout ce qui est de la grande tradition de la grande église orthodoxe qui malheureusement s'est séparée de nous, nous nous sommes séparés d'eux en 1054. C'est un géant, le cardinal Lavigerie, un géant aussi de la lutte anti-esclavagiste. Faut voir tout ce qu'il a fait pour libérer les esclaves à cette époque où on les vendait comme des troupeaux. Quelle horreur, hein? Et c'est un éducateur aussi du monde féminin. Il a su donner aux femmes des responsabilités immenses. C'était un défenseur des pauvres. Puis un pionnier de la rencontre, je vous l'ai dit, avec le monde musulman. Il voulait donc que ses fils et ses filles spirituelles, les missionnaires d'Afrique, qu'on ne connaît mieux sous le nom de Père Blanc et Sœur Blanche, mais qu'ils s'incarnent dans le monde africain, qu'ils se fassent tout à tous. Comme je vous ai dit, en adoptant la langue, la culture, l'habillement, la vie simple de leurs frères et sœurs d'Afrique, car ils considéraient les Africains, qui étaient souvent extrêmement primitifs, hein, qui vivaient pour ainsi dire à l'âge de pierre, mais qui avaient des âmes si belles. Ces hommes et ces femmes avaient souvent, et l'ont toujours, des qualités du cœur absolument extraordinaires que j'ai découvert moi-même au Cameroun en passant là un mois en 1971. Ah, que j'ai aimé mon séjour en Afrique, où j'ai vu ces gens merveilleux. Bien, lui, il les a aimés aussi. Et le cardinal n'était cependant pas un saint, dit-on. Il avait un tempérament bouillant, des sautes d'humeur, des colères, qu'il cherchait en toute humilité à se faire pardonner. Et c'est très beau sa façon de demander pardon aux gens qu'il pouvait avoir blessés. Et les gens pleuraient devant sa façon de demander pardon, lui, un cardinal, car il était un peu coléreux. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'était simplement des conditions, comme je vous ai dit tout à l'heure en vous parlant de la Sainte Vierge, probablement des gènes, son père, sa mère et ses grands-parents étaient peut-être coléreux. Et ça s'est transmis à lui dans son organisme, des croix à porter. Hein? Ces défauts-là sont des croix que l'on porte, qui nous rappellent toujours que c'est par Dieu que l'on peut devenir des saints, et non pas par notre simple volonté. Il n'a jamais été candidat à la canonisation, et je le regrette, moi. Je le regrette, car je l'aime, j'ai appris à l'aimer. J'ai lu deux gros bouquins de sa vie par le Monseigneur Bonnard, on s'est paru il y a longtemps, en 1922. Mais que c'est passionnant! Quel homme courageux, hein? On le sent encore aujourd'hui proche de nous quand on lit tout ça. Et on le sent proche de nous à cause de ses petites faiblesses. C'était un homme tout d'une pièce, et c'est peut-être pour ça qu'il a fait les grandes choses qu'il a faites. Hein. Il haïssait toute forme d'esclavage, il était prêt à lutter avec acharnement pour ses convictions. Ses convictions, c'était celles de libérer tout un peuple, tout un continent, y compris les Arabes. Il aurait tant souhaité aider les Arabes à se libérer de ce qui pouvait être difficile pour eux, mais il voulait surtout libérer les Africains noirs. Il était un travailleur acharné qui s'est usé jusqu'à la corde. Il y a laissé jusqu'à sa santé, il faut voir comment il est mort épuisé pendant les dernières années de sa vie, puis il est mort jeune, il n'avait pas 70 ans. Il est un homme dévoué à l'Église et très attaché au pape, le grand pape Léon XIII, qui était son ami et son confident. Le cardinal Lavigerie n'a pas connu ce que c'était que la demi-mesure. Non, jamais. Il s'attendait à ce que ses missionnaires soient comme lui. Il était exigeant pour lui-même, mais il était exigeant aussi pour ceux de son entourage. Il vouait aux ailes, aux vrais ailes, une admiration sans borne. En somme, le cardinal de Lavigerie demandait un don total à Jésus-Christ, pas un petit don. Pas un petit don de quelques instants, mais un don total. Il distribuait à ses fidèles collaborateurs ce qu'il appelait des visas pour le martyr quand il les autorisait à partir pour l'Afrique noire. Visa pour le martyr. Êtes-vous prêt à mourir? C'était un grand homme qui était prêt lui-même à se retourner dans sa tombe, là où il percevait de la tiédeur et du relâchement apostolique, c'est ce qu'il disait lui-même. Ça ne doit pas être facile de le côtoyer. Mais que de saints a-t-il engendré? Il est le père de nombreux saints chez les pères blancs, chez les sœurs blanches, et aussi chez les noirs d'Afrique, et même chez certains arabes, d'Algérie ou d'ailleurs, mais qui n'ont jamais été canonisés. Cet homme est admirable. Il faudrait apprendre vraiment à l'aimer, à l'admirer, à le respecter. Au lendemain de la mort du cardinal Lavigerie, il y a un publiciste qui a écrit dans le Moniteur de Rome des lignes prophétiques. Il dit « Maintenant qu'il repose en paix, aux initiatives audacieuses de ce grand homme va désormais succéder le développement graduel et pacifique de ses œuvres. Il a taillé de la besogne à la lumière à plusieurs générations. Il a fait de l'histoire pour des siècles. Les missions, Carthage, les Pères Blancs, les Sœurs Blanches, le Sahara et le Soudan, dont il sera question ce soir chez les Pères Blancs, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique des Grands Lacs, tout marchera sous le coup de l'impulsion reçue de sa main. Quand les moissons mûrissent, les semeurs s'en vont. » Alors, pour mieux apprécier l'envergure du cardinal Lavigerie, je vais évoquer quelques moments révélateurs de sa vie, peu ordinaire. Il naît le 31 octobre 1825 en Pays Basque, c'est-à-dire dans cette région où vivent les Basques. Vous savez, c'est un peuple dont on ne connaît pas l'origine de la langue, tant la langue est ancienne. On pense qu'il parle peut-être la langue des anciens Égyptiens qui auraient accosté sur cette côte de l'Atlantique qui forme une partie de la France et de l'Espagne qui se rejoignent, les Basques. Oh, il faut aller voir les Basques, c'est un peuple fier, un peuple qui souhaiterait sa liberté. Ils cherchent leur libération depuis si longtemps, mais l'auront-ils jamais, est-ce possible? Il était originaire d'une famille chrétienne, évidemment, l'aîné de 4 enfants. Et en 1841, à l'âge de 16 ans, Charles Lavigerie quitte sa famille pour entrer au petit séminaire de Paris, c'est là que brillant, très brillant étudiant va commencer à s'ouvrir l'âme de cet enfant au grand problème de la France, au grand problème de l'Église et du monde en général. Et à 29 ans, 1854, il est prêtre. Il est muni de 2 doctorats. Il devient professeur à la Sorbonne, oui, très jeune. Et en 1856, 2 ans plus tard, on lui propose de devenir le premier directeur de l'œuvre des écoles d'Orient. Ce sont des écoles que l'on établissait surtout en Israël, en Palestine, quoi, puis au Liban, etc. Une association fondée pour soutenir l'Église au Proche-Orient. Et que de bien ces écoles ont fait à ces peuples arabes, chrétiens, mais aussi musulmans. Et Lavigerie, bien, y voit la main de Dieu, puis il accepte. Et en 1860, à 35 ans, lorsque les chrétiens du Liban et de Damas, en Syrie, sont massacrés et pillés par les musulmans, ou je devrais dire des musulmans, car il ne faut pas généraliser, bien Lavigerie s'y rend pour apporter le secours catholique, et il est navré de constater tout l'écart qui sépare les fidèles de ces 2 grandes religions monothéistes que sont le christianisme et l'islam. Son cœur est blessé par ça. Et par contre, il découvre justement les richesses de la civilisation arabo-musulmane. Il s'éprend des musulmans. Puis il voit aussi les églises d'Orient qui sont dans la misère. Et il apprend à aimer nos églises sœurs catholiques, les églises d'Orient, mais aussi les églises séparées orthodoxes. Et comme saint Paul sur le chemin de Damas, bien notre jeune prêtre voit le Christ ressuscité, qui lui présente un nouveau défi, la réconciliation des chrétiens entre eux, et celle des chrétiens avec les musulmans. Alors en 1861, reconnu pour son doigté dans cette situation délicate du Proche-Orient, ben c'est Rome qui l'appelle comme auditeur de la ROTE, une importante fonction diplomatique. Et c'est alors qu'il constate la trop grande italianisation de l'Église. Et ça, en 1863, il a écrit un long mémoire au directeur des affaires étrangères du Vatican. Puis il n'y va pas de main morte. Il dit, au sujet de l'Église trop italienne, « Le grand vice, le vice radical, suivant moi, du gouvernement romain, soit ecclésiastique, soit même civil, c'est de n'être pas un gouvernement catholique. Je m'explique. Je veux dire qu'au lieu de faire entrer dans leur gouvernement des hommes pris dans toutes les nations, les papes, depuis 300 ans, et depuis 300 ans seulement, n'y ont admis que des Romains, ou tout au plus des Italiens. Et à son tour, le Sacré Collège, vous savez, c'est les cardinaux, ça, n'a jamais élu pour chef de l'Église que des cardinaux appartenant à l'Italie. Cette façon de faire semble au cardinal Lavigerie un grand danger pour l'unité de l'Église. Et il dit, aussi, assistons-nous depuis un quart de siècle surtout à ce singulier spectacle de voir italianiser le monde, et en particulier la France, sous prétexte d'unité catholique. On veut que nous adoptions la liturgie, les usages disciplinaires, le chant, les habits même du clergé d'Italie. Et nous avons malheureusement chez nous une foule d'esprits faux qui prennent cela pour une nécessité. En somme, Lavigerie ménageait pas ses mots lorsqu'il était question d'un point qui lui semblait essentiel. Il a été à l'avant-garde. Donc en 63, à 38 ans, il devient évêque de Nancy dans l'est de la France. Et pour sa devise, donc, il a choisi Caritas, comme je vous ai dit. Et puis là, en 66, il fait face à un choix décisif. D'un côté, on lui promet le siège d'évêque de Lyon. Il serait primat des Gaules, comme on dit, donc le chef de l'Église de France. Et de l'autre, on lui offre le pauvre archidiocèse d'Alger. Oui, d'Alger, en Afrique du Nord. Alors, inspiré par l'Esprit Saint, il donne sa réponse en 24 heures. Il sera missionnaire. Il est attiré par le possible contact avec les musulmans. Mais son regard se porte encore plus loin. L'Algérie lui apparaît comme la porte d'entrée de ce vaste continent de 200 millions de personnes à l'époque. Hein? Oh là là. Alors, on peut dire que c'était un homme qui voyait grand. Il s'enfermait pas dans les petites préoccupations quotidiennes de son œuvre actuelle. Il voyait toujours plus loin. Et c'est pour cela qu'au lieu d'accepter le poste d'archevêque de Lyon, il a accepté celui d'archevêque d'Alger. C'était pour lui la porte ouverte sur tout le continent africain. Il devait ainsi devenir l'un des fondateurs de l'Église africaine des temps modernes. Ah, il y a un texte ici, une lettre qu'il a adressé, où il s'explique là-dessus, et c'est une très belle lettre. Il dit, vous me demandez comment moi seul je puis espérer obtenir un résultat. Il dit, d'abord, je ne serai pas seul, puisque j'aurai avec moi mon clergé et mes communautés religieuses. Voilà, il avait déjà cette vision magnifique. Hein. Il voulait un apostolat vraiment catholique, universel. Il dit, vous m'avez entendu? Me désapprouvez-vous encore? Je suis bien sûr à l'avance de votre réponse parce que je connais votre cœur. Alors il insistait sur le fait qu'il ne serait pas seul pour entreprendre une œuvre d'une telle envergure. Il aurait avec lui ses missionnaires. Et l'on verra quels seront ces missionnaires. Des missionnaires qui doivent être surtout des initiateurs d'une œuvre durable qui doit être accomplie par des Africains eux-mêmes plus tard devenus chrétiens et apôtres. Et voilà donc que le cardinal Lavigerie a dit tout à l'heure, les missionnaires doivent être surtout des initiateurs, mais l'œuvre durable doit être accomplie par les Africains eux-mêmes, devenus chrétiens et apôtres. Et il ajoute, et il faut bien remarquer ici, que nous disons devenus chrétiens et apôtres et non pas devenus français et européens. Ce serait un contresens que d'en faire des Européens et des Français. Il faut donc se contenter de travailler leur cœur, leur âme, leur intelligence, l'intérieur en un mot, pour le rendre sincèrement chrétien, et leur conserver au contraire tout l'extérieur indigène, le vêtement, le coucher, la nourriture et surtout la langue. Les rendre sincèrement chrétiens, dit-il, oui. Bien sûr, la transformation des sociétés passe par l'évolution des personnes, mais chaque chrétien, de par sa consécration dans l'Esprit Saint, est responsable du milieu qui l'entoure. Et c'est ce que le cardinal Lavigerie voulait promouvoir en donnant aux laïcs la place de base qui leur revient dans l'Église. Alors, il prévoyait, le cardinal Lavigerie, la formation de catéchistes. J'en ai rencontré au Cameroun, admirable. Des hommes qui sont nés dans des cases très simples et qui connaissent mieux L'enseignement de la foi que bien des parents catholiques du Québec. Et ici, ils ont voulu former un clergé africain. Et plus tard, lorsque des sœurs arriveront en Afrique du sud du Sahara, ou sous le Sahara, c'est-à-dire en Afrique noire, ben, il a voulu former des religieuses africaines. Il s'en est fondé des congrégations africaines. Extraordinaire, hein? Mais toutes ces directives, même suivies fidèlement, ça suivait pas. Ça suffisait pas. Pour changer le cœur, disait-il, pour lui inspirer la foi et la vertu, il faut avoir soi-même une foi et une vertu suréminente. Oh, je recommence, c'est trop beau. Pour changer le cœur, pour lui inspirer la foi et la vertu. La vertu, c'est pas plate, ça. La vertu, c'est pour rendre heureux, c'est pour libérer, c'est pour faire danser, c'est pour faire sauter de joie les gens. Donc, pour changer le cœur, pour lui inspirer la foi et la vertu, il faut avoir soi-même une foi et une vertu suréminente. C'est extraordinaire, quel homme. Pourtant, c'est banal, si on dira, hein. Ça devrait nous être répété tous les jours, et selon la formule de saint Paul qui a été reprise par l'Évigerie, mais la manière divine, dit-il, pour transformer les cœurs est de se faire tout à tous pour les gagner tous à Jésus-Christ. Alors il a été exigeant envers ses missionnaires. Il disait, mes chers enfants, vous n'êtes pas des explorateurs, vous êtes des apôtres. Vous n'êtes que cela, des apôtres. Ou tout au moins, le reste ne doit venir que par surcroît. Je vous en conjure, ressuscitez en vous ces grandes pensées de l'apostolat. Réveillez vigoureusement l'esprit de foi et de piété qui paraissait être endormi dans vos âmes. Il ajoutait quelque chose d'incroyable. Je préférerais vous savoir mort que de vous voir manquer à l'esprit de votre vocation et devenir des espèces de Robinson africains. Vous avez Robinson Crusoe. L'apôtre, dit-il, ne l'oubliez jamais. C'est exclusivement l'homme de Dieu et des âmes. Vous savez qu'il y a eu plus de 5000 missionnaires qui sont allés évangéliser l'Afrique dans sa congrégation. Il y en a eu beaucoup. Vous direz, 5000, c'est pas beaucoup. Au contraire, c'est beaucoup, car le rayonnement de la plupart d'entre eux était énorme. C'est d'ailleurs un patriarche grec, orthodoxe, qui disait que la Vigerie avait rendu à l'Église plus de services que, écoutez bien ça, Basile, Saint Basile, le grand Saint Basile dont je vous ai déjà parlé, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, précis. Et en 1868, comme il ne trouvait pas de collaborateurs adéquats pour les grands projets qu'il nourrissait, je vous l'ai dit, il a fondé les missionnaires d'Afrique. Et de toutes ses œuvres, c'est les Sœurs Blanches, on peut dire, qui a été la plus chère à son cœur. C'est il y a 125 ans. Et dès les débuts de la fondation des Pères Blancs, il a entendu faire une œuvre originale, hein, très originale. Il est dit à l'article premier des règles de 1869 que l'archevêque d'Alger désire, il était archevêque d'Alger, désire pour le seconder une société de missionnaires qui, suivant le précepte de saint Paul, se ferait tout à tous pour gagner les âmes à Jésus-Christ, et adopterait peu à peu le costume, la langue, la nourriture, les usages des indigènes de l'Afrique, pour conquérir leur confiance et leur affection. Et cette petite société adopte, pour assurer le succès de son œuvre difficile, des moyens qui n'ont pas été tentés jusqu'à ce jour et que je crois appelés, par la grâce de Dieu, à de bons résultats. Jean-Paul II, c'est le premier pape à avoir utilisé le mot d'inculturation. Ça signifie l'incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones, les cultures des indigènes, hein? Et en même temps l'introduction de ces cultures dans la vie de l'Église. Et l'inculturation, c'est d'abord l'imitation de l'incarnation de Jésus, hein? Dieu qui se fait homme. Nous, Européens, Nord-Américains, missionnaire, on doit s'incarner, se faire autre. C'est tellement beau de voir ces missionnaires qui nous reviennent au bout de 30-40 ans et qui disent qu'ils ne peuvent pas vivre au Québec. Il faut qu'ils retournent là-bas car le Ils se sont inculturés. Ils se sont incarnés. L'Église invite donc les chrétiens à être des témoins du Christ, au cœur même de la vie culturelle et sociale des peuples où ils vivent. Ils sont invités à devenir familiers avec leurs traditions nationales et religieuses. C'est là qu'ils peuvent découvrir avec joie et respect toutes les semences que le Christ, Verbe de Dieu, y a cachées. C'est comme ça, les vrais missionnaires. Jean-Paul II ne cesse de redire sur tous les chemins du monde qu'il parcourt à grande enjambée apostolique. Il dit des choses comme « Le dialogue de l'Église avec les cultures de notre temps est ce domaine vital dont l'enjeu est le destin de l'Église et du monde en cette fin du XXe siècle. » Eh bien, c'est ce que faisait déjà le cardinal Lavigerie. En 1872, Lavigerie présente au Saint-Siège, comme on dit, sa candidature pour le patriarcat latin de Jérusalem. Il rêve. Il est toujours préoccupé par le retour des églises orientales à l'unité avec Rome. Il veut réunir toutes les églises. Lavigerie n'ira pas à Jérusalem, par contre. Mais ses fils spirituels vont y porter son idéal. 6 ans plus tard, il a 53 ans, les premiers pères blancs, en 1878, prennent pied, eux, à Jérusalem. Et la première caravane de missionnaires se met en route, aussi, cette année-là, pour les grands lacs de l'Afrique équatoriale. Là, c'est terrible. C'est vraiment la confrontation avec les grandes civilisations noires. Et en 1882, il a 57 ans, il est créé cardinal par le pape Léon XIII. Et Lavigerie accepte donc cet honneur de bon cœur. Il y voit pour lui un atout supplémentaire pour le rayonnement de ses œuvres. En 1882, en effet, il fonde par ses missionnaires l'école apostolique de Sainte-Anne de Jérusalem. Elle est destinée à recevoir les enfants de rites orientaux, principalement de rites grecs, qui se destinaient au sacerdoce puis à l'apostolat de l'enseignement chrétien parmi les orientaux. Alors le cardinal Lavigerie exige dans l'éducation des enfants, et écoutez bien ça, c'est merveilleux, il exige un caractère absolument oriental. Il déclare le rite oriental est seul en usage. Ils doivent garder le rite, doit être le seul en usage pour les exercices publics du culte. Il déclare aussi que les langues orientales, c'est-à-dire l'arabe et le grec, sont seules avec le français étudiés dans la maison. Les enfants ne sont jamais admis à embrasser le rite latin. Faut jamais, même s'ils le veulent. Même s'ils voulaient entrer dans la société des missionnaires d'Afrique qui les élèvent, ils devraient garder leurs rites orientaux, leurs rites traditionnels. Il dit que l'école doit rester absolument orientale, non seulement dans le rite, dans l'enseignement, mais encore dans la manière matérielle de vivre, comme le vêtement, le coucher, la nourriture. C'est vraiment un homme d'avant-garde. Et c'est dans ces années-là qu'est entrée la première Québécoise dans cette congrégation des sœurs d'Afrique, sœurs missionnaires. C'était sœur Adélaïde Morin. Elle était originaire de Saint-Norbert d'Arthabasca. C'est extraordinaire, hein? Déjà à la fin du 19e siècle, il y avait eu deux pères missionnaires d'Afrique qui venait d'Alger pour une tournée ici. Et puis elle était originaire, elle, de la région des Bois-Francs. Et puis elle a été attirée par leur prédication. Et l'année suivante, en 1884, deux sœurs, à leur tour, viennent donc, Adélaïde Morin est émerveillée. Elle boit leurs paroles, elle pose des questions sur leur vie, leur apostolat. Et petit à petit, l'appel se précise, elle n'a plus d'hésitation. Dieu l'a vue missionnaire en Afrique, elle a 20 ans. Et même si elle a grandi en milieu foncièrement chrétien, elle craint fort que ses parents s'y opposent et que tout le monde la traite un peu de folle. Mais elle écrit à Mère Marie Salomé, qui est alors supérieure générale des Sœurs Blanches à Alger, pour demander la permission d'entrer chez ce qu'on appelle officiellement les sœurs missionnaires d'Afrique. Et à ce moment-là, la jeune congrégation traverse des grandes difficultés. Le cardinal Lavigerie a demandé de fermer le postulat. Mais Mère Marie Salomé demeure confiante et elle répond à Adélaïde Morin. Elle lui demande d'attendre un an. Puis l'année suivante, sans même attendre rien de plus, cette jeune Québécoise prend le bateau pour l'Algérie. Elle annonce en même temps son arrivée à la supérieure générale pour le 10 octobre. Elle craignait d'être rejetée, hein? Et cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe à Alger. Alors l'avenue d'Adélaïde Morin, ainsi que d'autres jeunes filles qui venaient, elles, de France, ça a contribué à faire revenir le cardinal Lavigerie sur sa décision de fermer le postulat. Alors, le postulat a été réouvert. Adélaïde Morin est devenue sœur Marie Bernard. Elle a fait profession le 24 mai 1888. L'Afrique du Nord a été son champ d'apostolat. Sa vie missionnaire a alterné entre le soin des malades, la formation des femmes et des fillettes au tissage, les visites des gens dans les villages, mille et un services rendus à la communauté. Elle était adroite, elle était dévouée, elle était estimée de tous les Arabes. Elle est revenue au Canada une fois, en 1906 seulement. Sa santé a été ébranlée à diverses reprises, ce qui l'a obligée plus d'une fois à interrompre son travail. Puis après une vie missionnaire bien remplie, elle est morte à Alger. En 1934, à 70 ans, elle a vécu en Afrique 49 ans à se dévouer auprès des Arabes. En 1888, le cardinal Lavigerie avait 63 ans. Il y avait là une campagne anti-esclavagiste retentissante. Le cardinal y met tout son prestige pour la mener à bien. Pendant 8 mois, il a parcouru l'Europe. Il a prêché dans les grandes villes. Il a alerté la presse. Et il a mis sur pied divers comités engagés dans la lutte contre l'esclavage. Vous vous rappelez que la deuxième moitié du 19e siècle a vu le continent africain déchiré par ce drame révoltant qu'était la traite des esclaves. Rappelons-nous, nous catholiques, qu'en 1888, le pape Léon XIII conjurait tous ceux qui avaient le pouvoir de mettre fin à ce hideux trafic d'agir. Et c'est ainsi que le cardinal Lavigerie fut chargé par le pape Léon XIII d'amorcer en Europe cette vaste campagne. Il écrivait l'horreur de ce drame, le cardinal Lavigerie disait, et c'est terrible, depuis environ un quart de siècle, plus de 20 millions de victimes ont été livrées à l'esclavage et à la plus horrible mort. J'ai pu calculer, d'après les témoins oculaires, que 2 millions de créatures humaines disparaissent ainsi chaque année. Imaginez, 2 millions. C'est-à-dire, disait-il, 5 000 Noirs environ massacrés, enlevés, vendus chaque jour, si l'on compte les victimes de toute l'Afrique. Il criait, c'est la destruction de tout un continent. Alors, à la demande du pape, le cardinal Lavigerie sillonne les capitales européennes. La première partie de sa tâche consistait à faire connaître au monde, comme il dit, les horreurs de l'esclavage africain et à créer dans les différents États de l'Europe des associations ou des comités qui continueraient par la presse et par les conférences la révélation d'un tel état de choses. Il disait, après avoir tant travaillé pour ça, dit, je suis à bout de force. Le premier pas de la démarche était accompli. Le cardinal avait sensibilisé l'opinion publique. Restait la tâche principale, abolir l'esclavage et ses ravages. Et pour ce faire, il a mis sur pied un peu partout en Europe des associations, des sociétés, des comités divers pour la lutte contre l'esclavage. Et le 18 novembre 1889, l'année suivante, se réunissaient à Bruxelles les représentants de 16 gouvernements pour déterminer les mesures à prendre en vue de la répression de la traite des esclaves. Le succès de la campagne contre l'esclavage n'a pas été immédiat ni total, mais le mouvement était bien lancé. Et ça a été finalement un succès. En 90, il avait 65 ans. Il y a eu le fameux toast d'Alger. Qu'est-ce que c'est? J'ai lu dans Monseigneur Bonnard, dans le tome 2, à la page 562 et suivante, des pages sur ce fameux toast d'Alger. C'est lors d'une grande réception où le cardinal Lavigerie a eu l'audace d'endosser la République française et avoir une attitude qui s'opposait finalement à la monarchie. Ce qui était contraire à l'opinion de toute une aristocratie catholique. Il a été détesté à cause de ça, quelque chose d'épouvantable. C'était son calvaire. Mais heureusement, le pape Léon XIII, qui était très préoccupé par l'attitude des catholiques français, qui refusait toujours de donner leur appui au gouvernement républicain, a endossé le cardinal Lavigerie, et jugeant la situation trop délicate pour intervenir lui-même, il a mandaté le cardinal pour le faire à sa place. Et c'est au nom du pape que Lavigerie parlait. Il a accepté, même s'il prévoyait des retombées fort négatives pour ses œuvres. Ce fut le cas, mais il était soutenu par le pape. Pas facile, la politique, quand elle prend des tangentes bourgeoises et remplies de préjugés à l'égard de la République. Faut dire que les républicains avaient souvent persécuté l'Église, d'abord avec la Révolution française, et ensuite au creux de différentes actions qu'ils ont posées, et ils en poseront encore au début du XXe siècle, quand ils chasseront toutes les communautés religieuses, et qu'ils chercheront à nationaliser toutes les écoles, et faire que les écoles catholiques n'existent plus. Mais il faut que les catholiques soient présents justement dans cette République pour la soutenir et la transformer, l'animer d'un esprit chrétien. C'était le point de vue du cardinal Lavigerie. En 1892, il avait 67 ans, c'est l'année de sa mort. Ah, les deux dernières années du cardinal ont été une longue passion. Ça a été épouvantable. La maladie l'accablait. Ce fut terrible, terrible. Et la politique qui a suivi le fameux toast d'Alger dont je viens de vous parler a altéré sa santé. Il a fait le don de sa vie pour le bien des œuvres dont il avait été l'instigateur. Cardinal était dans un état d'infirmité déplorable. Ni ses pieds, ni ses mains ne le pouvaient servir, dit le Monseigneur Bonnard. La cruelle arthrite qui l'envahissait ne lui laissait de repos ni le jour ni la nuit. On trouve rarement, dit-on, cette diathèse dans des conditions plus douloureuses. C'est un des médecins qui l'avait soigné qui écrit ça. Il ajoute, et ce qui m'étonne davantage, c'est qu'on puisse supporter longtemps un tel état et trouver encore le moyen de faire tout ce qu'il fait. Oh, la force d'âme du cardinal Lavigerie demeurait toujours. Elle lui servait beaucoup à se dominer lui-même. Il avait encore des vivacités de nature, je vous l'ai dit. Mais il les surveillait puis il les réparait franchement. Voici un cas. Un jour, raconte le père d'Augsbourg, que j'avais défendu auprès de lui et couvert de ma responsabilité un frère attaché à son service. Son éminence me renvoya assez brutalement d'auprès d'elle. Mais quelques minutes après, elle me fit rappeler, et me prenant les mains, elle me pria de lui pardonner ce mouvement d'impatience inexcusable envers un prêtre de mon âge. J'étais moi-même confus de la confusion que ce grand cardinal en témoignait devant moi. C'est arrivé souvent dans sa vie, il savait demander pardon. Les services qu'on lui rendait le trouvaient reconnaissant, jusqu'à une humble tendresse. Un jour, que le frère qui l'habillait lui passait l'anneau pastoral au doigt, eh bien ce cardinal Lavigerie a retenu sa main pour la porter à ses lèvres. Et comme j'essayais de m'en défendre, rapporte le frère, « Non, laissez-moi, dit-il avec insistance, baiser cette main dévouée qui me sert si bien et qui soulage mes souffrances. Ce n'est que juste, mon enfant. Quel bel exemple quand on est malade, hein? Baiser la main de celui qui nous aime. Se rendre compte que par cette main passe l'amour et qui fait grandir celui qui nous soigne, celui qui nous aide. Quand on est malade, on sert à quelque chose. On sert à faire grandir ceux qui nous aident. N'oublions jamais ça, hein? Autrement, on se décourage. Et ça s'est renouvelé une dizaine de fois, paraît-il, durant le service de ce frère auprès du cardinal. Il y avait bien quelques moments où la souffrance plus aiguë lui arrachait des cris. Une fois, il s'est écrié, « Mon Dieu, c'est trop souffrir !» Mais tout de suite, à main jointe, il disait, « non, mon Dieu, ce n'est pas trop. J'ai tort de me plaindre. Pardon, mon Dieu, pardon. » Et le frère déclare que, l'entendant parler et prier ainsi, pleurait, le frère pleurait d'émotion. Le cardinal Lavigerie a rendu son âme à Dieu un samedi 26 novembre. C'était hier l'anniversaire, à la fête de Saint-Pierre d'Alexandrie, un évêque d'Afrique dans le temps. Il avait 67 ans et 26 jours. Autour de son lit étaient réunis les représentants de toutes ces œuvres d'Afrique et des tas de dignitaires. L'attaque qui avait paralysé sa voix ne lui avait pas permis d'adresser ses adieux suprêmes à ceux qui étaient là. Mais ses dernières volontés étaient écrites. Il a laissé un testament spirituel qu'on a retrouvé dans ses papiers. J'en lis des extraits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ceci est mon testament spirituel. Je le commence en déclarant en présence de l'éternité qui va s'ouvrir devant moi que je vais mourir dans les sentiments où j'ai toujours vécu, à savoir ceux d'une obéissance et d'un dévouement sans borne au Saint-Siège apostolique et à notre Saint-Père le Pape, vicaire de Jésus-Christ sur la terre. J'ai toujours cru. Je crois tout ce qu'ils enseignent et dans le sens où ils l'enseignent. J'ai toujours cru, je crois qu'en dehors du pape ou contre le pape, il n'y a et ne peut y avoir dans l'Église que trouble, confusion, erreur et perte. Je l'ai servi de mon mieux tant que j'ai pu. Ne pouvant plus rien, maintenant je prie notre Seigneur d'agréer le sacrifice que je lui fais de ma vie. Et plus loin, il dit, je confonds dans mon dévouement au Saint-Siège celui que j'ai toujours eu pour la France chrétienne et pour les missions d'Afrique. Plus loin, il déclare, c'est à toi que je viens maintenant, ma chère Afrique. Je t'avais tout sacrifié, il y a 17 ans, lorsque, poussé par une force intérieure qui était visiblement celle de Dieu, j'ai tout quitté pour me donner à ton service. Depuis que que de traverse, que de fatigue, que de peine, je ne les rappelle que pour pardonner, pour exprimer encore une fois mon indicible espérance de voir la portion de ce grand continent qui a connu autrefois la religion chrétienne revenir pleinement à la lumière et celle qui est restée plongée dans la barbarie sortir de ses ténèbres et de sa mort. C'est à cette œuvre que j'avais consacré ma vie. Il dit enfin, je me recommande aussi aux prières de tous et particulièrement à celles de mes fils spirituels, de mes prêtres, de mes missionnaires, de mes filles, les sœurs de nos diverses congrégations. Il est mort pauvre, il dit, ne possédant rien dans ce monde, sauf les objets à mon usage personnel, tous les biens meubles et immeubles placés sous mon nom appartiennent au diocèse et aux œuvres dont j'ai eu l'administration. Il mourait pauvre, très pauvre, ne laissant rien à sa famille que la gloire de son nom. Et ses obsèques ont été un triomphe. Les musulmans sont venus, les juifs aussi. Tout le monde l'admirait. Et l'office achevé, le cercueil a été placé sur un char magnifiquement décoré à Alger, magnifiquement décoré de draperies, de couronnes rouges et de palmes vertes. Ce sont les lignes, les couleurs de l'Algérie. Et l'imposant cortège s'est mis en mouvement de la place de l'archevêché du gouvernement, sur la grande rue Bab Azoum. Et là, ils se sont rendus pour le transporter à Carthage. C'était un triomphe. Il était aimé. Les gens qui aiment à ce point sont aimés. Et les écrits de la Vigerie, s'ils portent la marque de son époque, demeurent très modernes. Ce passionné de l'Afrique disait, j'ai tout aimé de notre Afrique, son passé, son avenir, et ses montagnes, son ciel pur, son soleil. J'ai aimé l'Afrique jusqu'au martyr, s'il le faut. Le cardinal Charles Lavigerie, mort comme un saint, à mon avis.